Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le message que je veux vous apporter ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est un message qui s'intitule « Sur les épaules de Jésus ». Et là, ça évoque absolument rien pour vous, certainement, mais on va lire ensemble un passage dans Luc chapitre 15, les 7 premiers versets, Luc 15, 1 à 7. Il est écrit ceci. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? » C'est pour ça que ça s'appelle « Sur les épaules de Jésus », parce qu'il y a une joie lorsque Jésus retrouve cette brebis et qu'il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Amen. C'est un message de joie qu'il y a pour l'Église ce matin, parce qu'il y a plus de joie pour un seul qui revient que pour 99 justes qui restent avec Dieu. C'est incroyable ce message-là. Il y a un ami que j'ai rencontré lorsque j'étais pasteur à Dunkerque, dans le Nord. Il s'appelle Alexandre. La photo va apparaître et il a une vie assez compliquée. Vous savez, il y a des vies qui sont assez marquées par les difficultés. Et il est né dans un foyer où il y avait de l'alcoolisme, où il y avait de la violence. Ses parents ne s'entendaient pas du tout. Son papa est allé en prison. Il y a eu des beaux-pères qui se sont enchaînés ensuite et qui étaient violents envers Alexandre. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Il a eu des abus. Il a été à la rue. La violence, il est devenu très violent. C'était sa manière de se défendre. Il a connu la drogue, des drogues douces, des drogues dures. Il a connu des temps de dépression. Il a failli être papa quand il était préadolescent. Il a fait 7 tentatives de suicide. Et vraiment, il a vécu une vie. Mais est-ce que même c'est une vie? Est-ce qu'on peut appeler ça une vie? Je ne sais pas. Et Alexandre, un jour, il arrive à l'église et il écoute le message. Son cousin l'amène et puis il écoute là. Et son cœur est dur. Je discute avec lui. À la fin, il dit « Non, mais je ne peux pas. Je suis allé trop loin. Ce n'est pas possible que ça soit pour moi. » Et le Saint-Esprit va continuer de travailler son cœur. Le Saint-Esprit va l'interpeller dans un message et il va se donner à Jésus de manière extraordinaire. Et à ce moment-là, sa vie va commencer à être... vous savez comment Dieu peut faire? Il est capable de redresser même ce qui a été tordu. Il est capable de restaurer une vie, même la plus détruite auparavant. Jésus est capable de faire ça, vous le croyez? Et alors que Jésus est en train de faire ça, le temps après sa conversion va être un moment assez difficile parce que son ancienne vie veut reprendre le dessus. Il va vivre des pressions en fin de compte et ça va devenir vraiment très très compliqué pour lui. Et j'aimerais vous dire ceci, ce matin le message il est pour quelqu'un qui est chrétien, qui a déjà vécu des choses formidables avec Jésus. Mais en ce moment, ou peut-être qu'il l'a déjà vécu, peut-être un jour tu le vivras, il vit des moments difficiles. On va voir un petit peu ce que c'est, comment on peut se laisser distancer, comment on peut s'égarer, une brebis qui s'égare. Comment ça se passe ça? Et c'est un message de joie pour l'Église, parce que si ce n'est pas ton cas, mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Il va y avoir un moment de joie formidable et de partage, parce qu'il y en a qui vont revenir à Jésus ce matin. C'est un moment de joie. Vous voyez Jésus revenir et il invite tout le monde. Réjouissez-vous, j'ai retrouvé ma brebis. Et ça va être un moment extraordinaire pour cela. Alors, la première chose que je veux voir avec vous, c'est pourquoi on part? Comment ça se passe? Et mon point, c'est qu'il y a un moment, les créanciers frappent à la porte. Vous savez ce que c'est les créanciers? C'est ceux à qui on doit quelque chose. C'est ceux qui ont, quelque part, un droit sur notre vie. Ce n'est pas forcément des créanciers d'argent, mais c'est tout un tas de choses. Ça peut être des attitudes, ça peut être des fréquentations, ça peut être un état de cœur qui était sur nous et qui dominait sur nous. Lorsque vous êtes endetté, j'espère que ça ne vous arrive pas et que ça ne vous arrivera pas, mais des fois ça arrive, lorsque vous êtes endetté, si jamais vous gagnez un peu d'argent, vous ne le touchez même pas. Il va directement à vos créanciers. Directement. Ils ont une priorité sur vous. Et lorsque vous êtes venu à Jésus, Jésus a réglé toutes les dettes que vous aviez envers vos créanciers. Il les a réglées. Vous étiez comme ça avant et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a tout changé. Il a tout réglé. Mais il y a un moment, des fois c'est après le baptême que c'est difficile et des fois ça peut être des années après. Un enfant peut avoir les créanciers qui frappent à la porte de son cœur. Une mamie peut avoir des créanciers qui frappent à la porte de son cœur. Peu importe, un jeune converti, un chrétien engagé de longue date. Pas voir un jour quelqu'un qui frappe à la porte de son cœur et dit « Hey, c'est moi. Tu te rappelles de moi ? Tu me dois quelque chose. Tu me dois quelque chose. » Peut-être que la première chose qui vous vient à la tête pour les créanciers, c'est des dépendances. Vous êtes venu à Jésus et Jésus vous a délivré du tabagisme. Peut-être que vous étiez dans la drogue et du jour au lendemain, quand vous êtes tourné vers Dieu, Dieu vous a délivré de ça. Peut-être que c'est de la pornographie, peut-être que c'est de je ne sais pas quelle chose Dieu vous a délivré. Et à un moment donné, alors que tu es chrétien, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Hey, tu me dois quelque chose. Le créancier frappe à la porte. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que ce n'est pas une dépendance, peut-être que c'est des fréquentations. La Bible ne nous dit pas que quand tu deviens chrétien, tu ne fréquentes que des chrétiens, tu ne vis que à l'église. Dieu ne nous demande pas du tout d'être dans une bulle. Il nous dit d'aller par le monde. Par contre, il nous dit, tu vas choisir qui va t'influencer. Tu vas choisir tes fréquentations, qui va avoir le pouvoir de t'inspirer. Et il y a des gens qui fréquentaient des personnes qui avaient tellement une mauvaise influence sur leur vie. Et puis, ils rencontrent Jésus, c'est merveilleux. Puis à un moment donné, un soir, il y a la réunion, mais « Hey, salut, ça va ? Hey, on fait une soirée super, si tu viens pas, tu vas passer à côté de quelque chose. » Je dis, ben ouais, mais c'est mes amis quand même, je vais aller avec. Et puis tu vas une fois, et puis tu vas deux fois. Et puis finalement, ce feu qui était mis dans ton cœur commence doucement à s'éteindre parce que les créanciers te mettent la pression. Et tu es partagé entre les deux, mais comme ils sont insistants, eh bien des fois, tu peux céder à leur pression. Tes attitudes, peut-être que avant de connaître Jésus, tu étais quelqu'un de colérique. Tu t'emportais vraiment facilement. Et puis, tu as rencontré le Seigneur, il a mis une paix en toi, il a mis une maîtrise de toi-même, les fruits de l'esprit en fait. Il a mis ça en toi. Et là, tu es en train de vivre quelque chose qui fait que tu as juste envie de t'énerver fort. Ça bouillonne là. C'est comme si tu es testé. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait? Puisque j'ai rencontré Jésus, puisqu'il m'a libéré de ça, j'étais délivré complètement de ça, comment ça se fait que ça revient? Pourquoi ça arrive? Le diable sait que ça a déjà marché sur toi. C'est ton point faible. Alors il va titiller là-dessus. Oui, mais Dieu reste au contrôle. Le diable ne fera jamais rien que Dieu n'ait permis. Alors pourquoi Dieu permet? Je crois que Dieu permet cela pour que tu réalises que même dans ta faiblesse, tu es victorieux. Et dans ce moment où tu es juste en train de te poser la question, mais je croyais que Dieu m'avait délivré, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Comment ça se fait que la tentation vient encore à ma porte? J'aimerais vous dire ceci, quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus tenté. On sera toujours tenté, même Jésus a été tenté. Tout le temps, on sera tenté. Par contre, en Jésus, nous sommes tout le temps victorieux. Et c'est ça qui change. C'est ça qui change. Et en ce moment, tu es en train de vivre le moment où les créanciers frappent à ta porte. Peut-être que les créanciers de ta vie, ce sont la crainte. Tu vis par la crainte et ta vie est marquée par des choix qui sont juste des choix de crainte. Tu avais peur de certaines choses et ces peurs reviennent à ta porte et ça t'éloigne de Jésus. Peut-être que c'est de la culpabilité. Et c'est vrai que tu te rends compte que tu n'es pas parfait et tu peux sentir une pression de la part de Dieu. Et un jour, j'ai vu mon cœur comme j'avais besoin de le voir, comme Dieu le voyait. J'ai vu que je n'étais pas parfait. J'ai vu à quel point mon cœur était souillé. J'ai pleuré sur mes péchés. Mais immédiatement après, j'ai senti l'amour, la justification de Jésus par le Saint-Esprit dans ma vie. Et si la culpabilité revient dans ton cœur où le diable dit « Hey, Tu ne peux pas faire ça pour Jésus. Tu ne peux pas t'engager à l'église. Tu ne peux pas prier. Regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas parfait. Regarde, tu as encore chuté. Tu as encore ce péché qui est là. Tu fais quoi avec ta vie? C'est nul. Ça ne sert à rien que tu ailles à l'église. Et la culpabilité qui rongeait ta vie, qui a été retirée, elle refrappe à la porte de ton cœur. Peut-être que la culpabilité, c'est le créancier qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. J'aimerais te dire ceci. Ce matin, c'est un message pour toi. Tu vas comprendre à quel point Jésus t'aime. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est véritable et c'est encore puissant pour toi. C'est encore puissant pour toi. Peut-être que c'est le confort. J'ai pas trop envie d'être chrétien parce que, en fait, fais pas ci, fais pas ça, ça m'intéresse pas trop. Il y a déjà assez de règles à suivre. Et pendant longtemps, ça, c'était ton discours. Et un jour, tu as été percuté par l'amour de Jésus. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et là, tu as l'impression que Jésus te demande plus. Et laisse-moi te dire ceci, il va toujours te demander plus. Lui, il a tout donné. Il a donné sa vie. Il va toujours te demander plus. Il va toujours me demander plus en fonction de ce que je suis. Il a prévu cela. Et ça te fait peur. Ouais, mais Seigneur, si je donne plus, je vais avoir moins pour moi du coup. Et tout ce concept de Seigneur, moi, je vais vivre pour toi, je vais mourir à moi-même. Là, ça devient quelque chose qui te met tellement la pression parce que dans ta tête, en ce moment, alors que tu dois donner plus, il y a cette pensée qui est là. Hey, je suis prioritaire. C'est ton confort qui te parle. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire par rapport à Jésus. Tu n'as pas le droit de me laisser tomber. J'ai un droit sur toi. C'est moi qui vais prendre tes premières énergies. C'est moi qui vais prendre ta focalisation, ton objectif. C'est moi. Tu n'as pas le droit. Et en fait, il y a un mensonge dans tout ça. Dans le message des créanciers, il y a un mensonge. Ce mensonge, c'est, tu vois celui que tu étais avant? Eh bien, c'est ça le vrai toi. Moi, je sais comme tu es. Tu ne vas pas m'avoir. Tu ne vas pas m'avoir. Oui, Jésus m'a changé et tout ça. Ce n'est pas vrai. Moi, je sais comme tu es. Regarde comment tu réagis. Tu es en train de t'énerver là. Regarde, tu as encore péché alors que tu disais que tu étais délivré. Regarde ça. Et il y a comme une pression qui vient, une culpabilité, un mensonge de la part du diable qui se base sur des choses qui peuvent être vraies, mais qui déforment complètement le message de l'évangile dans ta vie et qui fait que pierre par pierre, tout ce que Jésus a construit, grain de sable par grain de sable, il est en train de s'effriter complètement. Et tout l'espoir que tu avais en Jésus, quand tu es venu à lui, est en train de partir. Mensonge après mensonge. Vous savez, Alexandre, c'était très difficile pour lui. Parce que il avait tellement de créanciers dans sa vie. Il a tellement connu de choses. Je vous ai raconté un petit peu. Et c'était tellement difficile pour lui. Je me rappelle, Dieu a parlé au cœur de ma femme, Delphine. Elle me dit, appelle Alex. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il ne pouvait pas venir tout le temps. Puis il y avait des moments où c'était très difficile pour lui. Et il était faible. Il avait vraiment besoin de s'affermir en Christ. Et c'est normal, en fin de compte. Il était jeune converti. Il venait tellement loin. Et alors qu'il était là, dans des moments, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas du tout l'état de son cœur. Le Saint-Esprit qui nous parle, qui dit, appelle-le, je vais l'appeler. Et c'était des moments tellement difficiles pour lui qu'après avoir connu Jésus, après l'avoir vu faire des miracles dans sa vie, il était prêt à mettre fin à ses jours à nouveau. Il a déjà fait 7 tentatives, ce n'est pas du blabla. Et 2 fois, je m'en rappelle, dans la semaine, il allait mettre fin à ses jours. Une autre fois, Dieu l'a rattrapé, mais d'une manière incroyable. Juste au bon moment. Et nous, on ne savait rien. Juste, vous savez, on voit l'amour de Dieu dans ces moments-là. Dieu savait. Et alors que c'est un moment assez compliqué, il est dans un temps de tension, on va aller à Page, le rassemblement de jeunesse. Peut-être vous êtes déjà allés, peut-être vos enfants sont déjà allés. Et il m'avait dit, je suis sûr que Dieu va me parler à Page. J'ai trop hâte d'y aller, je sens. Et des fois, Dieu nous parle. Et on a une parole de Dieu, on sent qu'il va se passer quelque chose. Il dit, j'ai trop hâte d'aller là-bas, il faut que j'aille à Page. Et à ce moment-là, il était tellement sous pression qu'il ne voulait plus y aller. Souvent, lorsqu'on est sous pression, on fait des bêtises. On ne prend pas tout le temps la bonne décision. Rappelez-vous, juste un petit exemple comme ça, au hasard. Lorsque vous étiez en train de passer votre permis de conduire et que c'était l'épreuve que vous préfériez, celle du créneau. D'accord ? Je vois certains se rappellent, là, ils s'en rappellent. Normalement, il faut juste être bien concentré, calme, paisible. Mais à ce moment-là, votre cœur a commencé à faire un rythme formidable, très 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 vite. Vous avez commencé à transpirer, les mains tremblaient et vous avez fait juste le pire créneau de votre vie. Et il y avait le gars à côté en train de noter plein de trucs bizarres sur son papier. Ça vous stressait encore plus. et c'était horrible. Ou alors quand vous étiez sur un examen et vous arriviez à faire tous les exercices, vous avez bien travaillé, et là, dans ce coup, vous êtes sur la feuille et vous bloquez. C'est quoi ce truc à trois pointes? C'est un rectangle? C'est un carré? Non, c'est un triangle. Ouais, mais là, vous bloquez à cause de la pression. Vous vous rappelez de ça? La pression, des fois, elle est là. Et le diable, il sait très bien nous assaillir. Le temps que tu répondes à la chose qu'il t'a mis, à la phrase qu'il t'a dite, tu n'as même pas le temps de répondre qu'il y en a une autre, comme des vagues qui t'empêchent de respirer. Et là, Alexandre, il reçoit une nouvelle. C'est une autre vague. Il y a un de ses amis avec qui il a vécu dans la rue. Vous savez qu'il y a un code d'honneur quand même quand c'est dans la rue, tu n'as rien. Donc les gens qui sont avec toi, vraiment, il y a une loyauté très très forte. Il y a un de ses amis qui a été assassiné à Marseille. Et là, c'était trop pour lui. Et je vais voir Alex, on va aller à Page. Et je vais voir Alex et il me raconte ce qui se passe. Il a une rage à l'intérieur de lui. Je sens la violence qui est en train de revenir. Il est dégoûté parce que Jésus a commencé une œuvre en lui. Mais là, il est lié par ce qu'il doit à ses créanciers. Il doit aller à Marseille pour aller venger. Il doit faire ça. Et il me dit, tu vois, bah, tant pis. Ma vie, elle est fichue. Il était sous une condamnation avec sursis. C'est la moindre chose qu'il faisait, il partait pour la prison. Et il dit, bah, tant pis, c'est pas grave. Et je lui dis, mais non, mais mets pas ta vie en l'air à cause d'un engagement que tu as pris quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Si c'est un mauvais engagement, la Bible nous dit que les engagements qu'on a pris avant, Jésus, il a réglé ça. Mais ça n'a plus rien à voir avec nous. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, les engagements qu'on avait pris, ils étaient cloués à la croix. Maintenant, c'est une chose qui est nouvelle. Il y a des enfants qui sont nés. Et on a fait des prières, des incantations sur eux, des choses spirituelles mauvaises. Et on a l'impression qu'ils sont condamnés à vivre loin de Dieu. Une vie où ils vont être vraiment persécutés par le diable et tout ça. Et c'est très, très compliqué. On a l'impression qu'il n'y a pas la possibilité d'en sortir. Mais j'aimerais te dire ceci. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Ça là, quand tu viens vers Jésus, que tu mets toute ta vie, dis Seigneur, je veux que tu règnes sur toute ma vie, tous les recoins. Et ça précisément. Jésus est celui qui annule tous ces contrats-là et qui met en toi un nouveau contrat avec Dieu, le Saint-Esprit qui vit en toi. Toutes choses sont devenues nouvelles et il y a un nouveau. Tu n'es plus sous la dette, tu ne dois plus rien à tes créanciers. Plus rien. Et en fait, il y a quelque chose d'assez pernicieux. C'est que dans les moments où tu as vraiment besoin d'aide, c'est le moment où tu as vraiment envie que personne vienne te voir. Ça vous est déjà arrivé? Le moment où tu as le plus besoin de quelqu'un, c'est le moment où tu as juste envie de te protéger et que personne vienne te voir en disant « ça va ?»« Non, ça va pas. Tu veux qu'on parle ?»« Non. » »« Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?»« Non. » »« Allez, prie si tu veux, mais... » Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dans la tête qu'on est complètement perdu, on a juste envie de se retrouver. Et la pression est telle qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez pernicieux. On a besoin d'être seul. Le diable se sert de ça pour isoler. C'est comme ça qu'il va nous rendre vulnérables. Parce que lorsqu'on est dans la main de Dieu, qui va nous ravir de la main de Dieu? Personne. Maintenant, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui va déclencher le retour à Dieu? Parce qu'on parle de chrétiens, on parle de personnes qui vraiment sont allées vers Dieu, qui ont déjà été touchées par Dieu, qui ont déjà, ils savent toutes les histoires de la Bible. Est-ce que c'est parce qu'ils vont étudier, ils vont avoir une grande connaissance biblique, au bout d'un moment, au bout de 8 chapitres qu'ils ont lus dans la journée, pendant 3 semaines, là, ça fait un déclic? Non. Dans ces moments-là, c'est même dur de prier. Qu'est-ce qui fait le changement? Et en fin de compte, en lisant le texte, on s'aperçoit qu'il est écrit ceci. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Qui pense ne pas avoir besoin de Jésus? Lève la main ce matin. Personne? Vous ne croyez pas ce que Jésus a dit? Jésus a dit 99 justes qui n'en ont pas besoin. Vous êtes embêté là, hein? Vas-y, dis la suite là, ça m'embête. En fait, Jésus, là, il a une ironie. Parce que les pharisiens, les religieux qui étaient là en train de dire « Ouais, c'est pas juste, ils mangent, ils prêchent avec les pécheurs et tout ça, ils devraient être avec les religieux. » Ils n'ont pas compris qu'il y a de l'amour dans le cœur de Jésus. Et en fait, à ce moment-là, Jésus est en train de leur dire « Vous voyez, pour qu'eux comprennent l'immense grâce de Dieu, il la ramène au truc le tellement petit de « Si vous, vous avez un troupeau, quelque chose qui vous appartient, vous allez chercher la brebis. » Ça réduit tellement la grâce de Dieu. Et pourtant, il est en train de leur répondre comme ça. « Hé, ne faites pas la leçon, parce que vous, quelque chose de plus petit, juste votre brebis, là, vous allez la chercher en laissant les autres. » C'est ça que vous faites. Et en fait, quand Jésus est en train de leur répondre, il est en train de leur dire, en fait, un seul qui revient, il y a plus de joie que pour 99 autres qui pensent qu'ils n'ont pas besoin. Et la clé, elle est là. Quand tu réalises que tu as besoin de Dieu, c'est ça. Je crois que c'est la prière la plus puissante de l'univers, de dire simplement dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Vous savez, le péché naît dans le cœur de l'homme lorsqu'en fait, il est en train de dire, Jésus, j'ai pas besoin de toi. Tu es Dieu, mais moi, je suis mon propre Dieu, j'ai pas besoin d'un Dieu. Tu as tes règles, super, moi j'ai les miennes. C'est ça, en fin de compte, c'est de là que vient le péché. On manque le but parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande. On ne le reconnaît pas comme notre Dieu. C'est ça, en fin de compte, c'est de là que ça vient. C'est pour ça, je crois, vraiment cette prière-là, j'ai besoin de Dieu, je reconnais que j'ai besoin de toi. Ça, c'est la plus grande de toutes les prières. Comment Dieu va intervenir dans ta vie? Comment il va faire quoi que ce soit, même s'il est tout puissant, si tu dis, mais non, en fait, je n'ai pas besoin de toi. Ou si tu ne lui demandes pas. Mais le moment où il y a juste un petit bêlement de brebis, où il y a juste encore une force, tu ne peux même plus faire une prière, mais simplement quelques larmes ou un soupir, où tu es en train de dire, Seigneur, fais quelque chose là, j'en peux plus, j'ai besoin de toi. Ça déclenche l'action de Dieu miraculeuse. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer lorsqu'on a demandé à Dieu de revenir. Le psaume 119, verset 176, alors c'est le dernier verset, mais pour qu'on puisse bien comprendre le verset, on va lire un peu tout le chapitre pour comprendre le contexte. Vous êtes d'accord? Le psaume 119, c'est le verset 176. Vous êtes prêts? Alors, non, on ne va pas faire ça. On va juste simplement lire le dernier verset. Il est écrit ceci. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur, car je n'oublie aucun de tes commandements. Ça ne vous semble pas bizarre? Ton serviteur qui n'oublie aucun des commandements, c'est plutôt un bon chrétien, je trouve. Et pourtant, il dit, je suis comme une brebis égarée. Et peut-être qu'en fin de compte, ce verset que je relis, je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur, j'ai besoin de toi, car je n'oublie aucun de tes commandements. Peut-être qu'en fait, c'est juste le cri de ton cœur. Ce matin. C'est peut-être ça en fin de compte, mais c'est ça en fait que j'ai besoin de dire. Ça, c'est ma vie, ça. Ça, je le prends comme une parole de Dieu pour moi. Ça, je le prends comme un cri de mon cœur. Oui, oui, Seigneur, oui, Dieu, moi, je dis ça. J'en ai besoin ce matin. Et c'est tellement une joie pour moi de voir que vous êtes là ce matin, parce que si vous êtes venu, c'est parce que vous aviez besoin de Jésus. C'est déjà un acte qui montre que vous avez besoin de Jésus. Alors, cette joie-là, elle est partagée de manière extraordinaire. Parce que vous avez remarqué, Jésus, lorsqu'il va chercher cette brebis, il ne va pas prendre une laisse et dire « Allez, viens toi, tu es parti trop loin. Ça fait combien de temps que tu étais là? Je t'avais dit en plus. » Il n'est pas comme ça. Jésus, il va la chercher et il la met avec quelle joie il la charge. Moi, quand je prends une charge, je ne suis pas trop heureux. C'est aussi dû à ma... Bon, bref... constitution physique, c'est pour ça. Mais Jésus, il prend, il met sur ses épaules. Et je me rappelle, moi, quand j'étais petit, je me rappelle que les épaules de Jésus, les épaules de mon papa, c'était vraiment l'endroit où j'aimais bien être. Pas vous? Je sais que je lui faisais des espèces de shampoings avec mes mains, il n'y avait pas de produit. Et mon père avait des cheveux formidables que tu les mettais comme ça, ça restait. Et il était très facilement mal coiffé. Et donc, pendant qu'en plus, j'étais un poids pour lui... Il était décoiffé, bonjour monsieur, oui, il avait les cheveux comme ça, et puis moi j'étais en train de... Bon bref, c'était tout un concept, mais moi je me sentais bien à ce moment-là. J'étais le maître du monde, j'étais le roi du monde, il ne pouvait rien m'arriver, papa pouvait me faire tous les discours pour me dire qu'il m'aimait, que je comptais pour lui. Mais là, il n'avait rien à me dire, il me prenait sur ses épaules, ça voulait dire tout ça. C'est tellement plus fort. Et j'étais rassuré. Et il y avait une joie partagée. Et c'était extraordinaire. Lorsque tu reviens et que Jésus t'accepte, te prend sur ses épaules, il te ramène à la maison, il y a une telle joie dans son cœur, une telle joie qu'il partage avec toi dans ton cœur, et une telle joie aussi dans l'Église, parce que la brebis revient. La brebis égarée n'est plus perdue parce que tu reviens à la maison. Alléluia. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, je reviens à Alexandre, mais il ne voulait pas venir à Page, et je l'appelle, et je lui dis, Alex, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu viennes. Demain matin, je vais te chercher. Et j'y vais, et dans ma tête, je me dis, il ne va pas être là, il ne va pas vouloir venir. Et j'arrive, et je suis à peine arrivé, il sort directement de chez lui, il avait ses affaires qui étaient prêtes, etc. J'étais hyper étonné, je ne lui ai pas posé de questions, on ne sait jamais, il peut changer d'avis. Je l'ai amené, on est allé à Page, et moi, dans mon cœur, j'avais une espérance, c'était qu'il reçoive cette parole que Dieu lui avait dite. J'avais une espérance pendant toutes les prédications, c'est qu'ils soient interpellés par Dieu et qu'ils puissent revenir à Dieu et que les réponses à ces questions soient répondues, qu'ils les reçoivent. Et les messages passaient, et les messages passaient, et ils ne les avaient pas. Et on arrive au milieu de Page, pour ceux qui ont déjà fait Page, il y a un tournoi de sport, et on faisait du foot, et j'aime beaucoup le foot. Mais à un moment donné, je vois Alex, et je vois qu'il ne va pas bien, il me dit « je vais m'en aller ». Alors j'arrête le foot et je passe du temps avec lui sur les gradins et je commençais à parler avec lui. Et il me dit pourquoi, et je sais qu'il peut le faire, il a vécu dans la rue, c'est très très bien comment se débrouiller. C'est quelqu'un qui est déterminé. Et il me dit je m'en vais, je suis déçu, je pensais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi, je pensais que Dieu allait me parler, mais c'est même pas la peine et tout. Et moi, l'après-midi, un par un, j'essaie de lui dire regarde ce que tu as vécu. Et je lui dis plein de points qui concernent sa vie et les créanciers qu'il avait avant. Et je suis en train de lui parler, c'est juste désespéré de ma part. Pendant que je lui parle, je suis en train de prier, Dieu, je t'en prie, viens interpeller son cœur. Mes paroles, elles ont peu de pouvoir, mais toi seul, tu peux le convaincre. Et le soir même, il y a un concert avec Impact Jeunesse, un groupe qui vient du Québec, avec le pasteur David Potier. Et on a une soirée spéciale, il y a 1200 personnes, et on n'est pas assis à côté de notre groupe de jeunes parce qu'ils nous ont demandé de nous mélanger. Donc moi, je suis assis à côté de Delphine, je suis là, je ne sais pas du tout où sont les jeunes. Et dans mon cœur, oui, je loue Dieu, mais je pense à Alex, je pense à Alexandre. Et le message commence, et alors que la prédication commence, le message s'appelle « Ne lâche pas ». Et il dit un point, et je me tourne vers Delphine, je fais « Oh là là, mais j'ai dit ça à Alex, moi, cet après-midi ». Et il continue de prêcher. Je commence à m'enfoncer sur mon siège. Et je dis à Delphine, j'ai dit ça aussi. J'ai dit ça encore. Je commence à dire, Seigneur, tu es en train de le chercher. Tu es en train d'aller le prendre là. Je suis en train de vivre ça. C'est juste extraordinaire. Et à un moment donné, il y a l'histoire de Julie Moss, qui est une femme qui a couru le premier Ironman à Hawaï pour les femmes. C'est un truc incroyable. C'est une épreuve physique extraordinaire. Et elle était la favorite. Elle arrive en premier. Sauf qu'à quelques centaines de mètres, de la ligne d'arrivée, elle n'a plus de force, elle est tétanisée, elle s'écroule. Elle se relève, elle fait quelques mètres et elle retombe à nouveau. Et elle ne peut plus bouger. Son entraîneur court pour essayer de la secourir. Elle lui dit « me touche pas parce que si jamais tu me portes secours, je suis disqualifié et je veux finir ». Elle est comme ça et alors que la foule est en train de la regarder, il y a les autres concurrentes qui étaient derrière elle qui la doublent. Et il y en a une qui finit première, il y en a une qui finit deuxième et troisième. Mais la foule ne regarde même pas ses concurrents qui viennent de gagner. La foule est en train de regarder Julie. Et elle est là, elle est à quatre pattes. Et d'un seul coup, dans la foule qui est autour, il y a quelqu'un qui fait « Allez Julie ! Vas-y Julie ! Lâche pas Julie !» À ce moment-là, centimètre par centimètre, elle grappille du terrain. Elle était prête d'abandonner, mais elle n'a pas lâché. Et à ce moment-là, le pasteur David Potier est en train de dire « Est-ce que tu entends dans la foule la voix de Jésus qui est en train de dire « Allez, Julie !» Et j'entends ça, moi, sur mon siège, je suis en train de penser à Alexandre. Voilà ce qu'il va dire le pasteur.
J'aimerais te dire ce soir, Jésus, c'est la voix dans la foule qui crie « Allez, allez, Julie, allez, Alexandre, allez, Jean !»
On est 1200. Et ça, c'était juste deux personnes qui savaient ce qui se passait. J'ai demandé après au pasteur, il a pris des prénoms au hasard. Enfin, au hasard. Jésus avait un rendez-vous personnel pour aller chercher quelqu'un. Et Jésus ne plaisante pas quand il va chercher quelqu'un. Il sait jusqu'où il va aller le prendre. Est-ce que tu peux juste considérer l'amour de Jésus pour toi ce matin? Jusqu'à où Jésus est capable d'aller pour aller te chercher? À quel point il t'aime? À quel point il y a une joie lorsqu'il te prend et qu'il te met sur ses épaules pour te ramener? J'étais là. Vous comprenez bien que lorsqu'il y a eu l'appel, moi je pensais à une seule personne. Et il y a eu, je ne sais pas, des centaines de jeunes, je pense un tiers de la salle, on était 1200, il devait y avoir 300-400 jeunes qui étaient là. Mais moi, il fallait que je prie pour les jeunes. Je voulais prier pour un jeune. Mais il fait noir, il y a plein de jeunes. Comment est-ce que je vais trouver Alexandre? Et là, vous savez, c'est un peu les clins d'œil de Dieu. Parce que j'avais besoin aussi, moi, d'être encouragé. J'avais besoin aussi d'avoir cette parole de Dieu. Et il s'est passé un truc, comme si les têtes des jeunes se sont écartées à un moment donné, alors que moi, j'étais en train de chercher. Et juste à ce moment-là, je regardais au bon endroit, les têtes se sont écartées, et je vois la tête d'Alexandre qui est au premier, juste devant l'estrade. Il est en train de louer Dieu. Il est en train de louer Dieu. J'avance et je passe entre les personnes. J'avance, je décale tout le monde. J'arrive près d'Alexandre. Et je lui dis, t'as vu, il a même dit ton prénom. Il a même dit ton prénom, Dieu. Il savait, David ne savait pas, il n'en savait rien du tout, mais Dieu savait. Et ce matin, je te dis ça, Dieu sait. On a le droit, quand on est chrétien, d'avoir des moments de moins bien. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de plus croire que Jésus peut faire quelque chose pour nous. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de rester dans l'illusion des mensonges, des créanciers. Jésus t'aime tellement ce matin. Et c'était une joie pour moi de pouvoir prier pour lui. C'est une joie pour moi de pouvoir raconter son histoire. C'est une joie pour moi de réaliser que ce matin, il y a quelqu'un qui va revenir vers Dieu. Et c'est une joie pour nous ce matin, Église de Créteil, d'accueillir tous ceux qui reviennent vers Jésus. Alors je vous demande maintenant de fermer les yeux. Et si quelqu'un est Alexandre et qu'il sent qu'il a besoin de revenir sur les épaules de Jésus, lève-toi maintenant. On a les yeux fermés. On va prier les uns pour les autres. Peut-être que c'est difficile pour toi de dire, Seigneur, je me lève, je reconnais que c'est moi, Alexandre. Mais je te dis simplement, lève-toi. La seule chose qu'il attend, c'est que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai même plus de mots pour te prier, mais j'ai besoin de toi. Lève-toi maintenant. Pendant que tu te lèves dans ton cœur avec tes mots à toi, dis à Jésus, Seigneur, voilà, c'est moi Alexandre, dis-le avec tes mots à toi. Et l'Église, vous priez. Priez pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos amis qui reviennent à Jésus, qui réalisent ce matin à quel point ils sont passés peut-être à côté. Peut-être que ton appel, tu passes à côté à cause de ça, de ces fameux créanciers qui frappent à ta porte. Et à chaque fois que tu veux t'engager dans quoi que ce soit pour Dieu, tu entends quelqu'un qui tambourine à la porte. Non, tu peux pas. C'est moi qui ai les droits sur ta vie. Peut-être que tu es vraiment parti loin et c'est juste un miracle que tu sois venu ce matin. Tu voulais même pas venir ce matin. Et Dieu t'attendait. Peut-être qu'il y avait un feu dans ta vie. Ce feu-là est en train de baisser. Et tu sais bien dans ton cœur que ça peut pas revenir tant que la bouche des créanciers est fermée. Ce matin, Seigneur, je veux croire ta parole. Je veux encore recevoir cette parole qui vient de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. On reste un temps comme ça alors que la musique joue. C'est un temps de prière, on est vraiment devant Jésus.
Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, je te suivrai, car tu es.
l'église peut se lever, on va le chanter tous ensemble. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi.
Tu es mort pour moi.
Quelle joie de revenir à la maison, Jésus.
Je
Je te remercie pour chaque personne, Seigneur, qui a un retour vers toi simplement parce que tu leur fais réaliser à quel point tu les aimes, pas noyés dans la masse, mais à quel point tu les aimes particulièrement, Seigneur. Pour chaque cœur, Seigneur, ce matin qui revient vers toi, il y a de la joie dans le ciel, Seigneur Jésus. Et je te bénis pour cela. Merci d'accompagner chaque personne. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de cette église, Seigneur. Et que ton nom soit vraiment glorifié, Seigneur, pour ton message et pour ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez